Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Xavier Yvon, bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur...
Mastodon.
Les utilisateurs cherchent à migrer vers Mastodon.
Mastodon
et non pas mastodonte. On ne va donc pas parler d'un mammouth, mais d'un réseau social. Et j'ai tout naturellement fait appel à Maxime Recoquiller, journaliste spécialiste de la tech à l'Express. Salut Maxime.
Salut Xavier. Et c'est marrant que tu dises ça parce que justement chez Mastodon, ils sont quand même inspirés de l'animal. Donc leur logo, c'est un genre de mammouth éléphant.
Tu dis, ils se sont inspirés, de qui parle-t-on ? Qui est derrière ce projet ?
Surtout une personne en fait, il s'appelle Eugène Rochko. Donc c'est un programmateur allemand passionné par les réseaux sociaux. Il est inscrit sur plusieurs d'entre eux. Il crée Mastodon en 2016 pendant ses études. Il s'agit d'une plateforme qui est fortement inspirée de Twitter, mais en open source. C'est-à-dire que son code est consultable par n'importe qui. Il fait ça car en vérité, il est plutôt inquiet pour le réseau qui a un oiseau bleu en guise de logo. Et je le cite, il dit « Ce qui m'a finalement conduit à créer Mastodon, c'était la rumeur selon laquelle Twitter, la plateforme que j'utilisais quotidiennement depuis des années, pourrait être vendue à un milliardaire controversé. » Il parlait en l'occurrence de Peter Thiel, proche de la droite radicale américaine.
Donc Mastodon a 6 ans et la rumeur à l'origine de sa création s'est tout récemment vérifiée avec un autre milliardaire.
Oui, alors cette fois avec Elon Musk, qu'on connaît bien ici à la loupe, un ennemi de Thiel par ailleurs. Bon, comme lui, il va centraliser donc un peu plus la plateforme autour de son personnage, de sa vision du monde. Beaucoup y voient en fait une menace pour la démocratie parce que sa vision de la modération et de la liberté d'expression pourrait donner encore plus de place finalement au discours de haine et à la désinformation. Et l'arrivée de Musk a généré un mouvement qui s'appelle Leave Twitter et qui bénéficie en ce moment à Mastodon, qui est présentée comme une alternative parce que la plateforme ressemble à Twitter. Reste qu'aujourd'hui, les deux réseaux sociaux ne jouent pas vraiment dans la même cour. On parle de 2 millions d'utilisateurs actifs pour Mastodon contre près de 230 pour Twitter.
Mastodon ressemble à Twitter, c'est-à-dire de quoi ça a l'air concrètement ?
C'est comme Twitter, en fait, du micro-blogging. C'est le fait de pouvoir écrire n'importe quoi et de le partager à une liste de suiveurs ou au monde entier avec une limite de caractères. L'équivalent des tweets sur Mastodon sont des pouettes, donc qui peuvent aller jusqu'à 500 caractères, c'est déjà deux fois plus que Twitter. Un retweet, donc un partage d'une publication, ça s'appelle un boost. On garde aussi comme Twitter le système de liste, d'abonnement bien sûr, qui est la base de tout, et c'est gratuit. En revanche, chez Mastodon, toutes les publications sont affichées par ordre chronologique. Il n'y a pas d'algorithme qui met en avant des publications plutôt que d'autres. Il n'y a pas de profil premium non plus, les petits badges bleu que vous voyez sur Twitter. On ne peut pas citer également un tweet pour ne pas vraiment attiser la haine ou l'opprobre sur quelqu'un. Et on ne comptabilise pas le nombre de likes aussi sur les posts. Donc en somme, c'est tout un tas de pratiques en fait plus ou moins perverses des réseaux sociaux traditionnels qui cherchent en fait normalement, eux, à capter l'attention des utilisateurs afin de générer de l'engagement et le tout pour engranger des recettes publicitaires.
Et comment on fait pour s'inscrire, Maxime ? C'est comme sur Twitter avec une simple adresse email ?
Oui, c'est hyper simple. Un mail, un prénom, un nom ou un pseudo, peu importe. Mais il y a quand même un choix qui est primordial, c'est celui du serveur où l'on veut s'inscrire et par lequel en fait on va accéder à Mastodon. C'est un peu plus compliqué que ça en a l'air en fait, parce qu'il y en a plus de 6000 qui sont conçus comme des mini-forums en fait. J'en ai vu certains où ils attirent en fait les utilisateurs en disant « nous, on est plutôt musique métal ». D'autres, ils disent « nous, on est des gens de San Francisco ». Et il y en a d'autres, ils disent « nous, on adore Linux par exemple ». Il y a beaucoup de communautés informatiques. Et ce choix, en fait, il est important parce qu'une fois que tu es inscrit, tes messages sont administrés par la personne donc, qui gère le serveur. Après, pas de panique, les messages sont aussi visibles par tous ceux en fait, qui utilisent Mastodon. On n'est pas enfermé dans une communauté et on peut lire les messages de toutes les personnes, peu importe le serveur.
Et quel est le but, justement, de ces multiples serveurs ?
C'est de rendre la plateforme décentralisée, donc par nature incontrôlable par une seule entreprise ou un milliardaire ou même par Eugène Rochko lui-même. C'est une lubie un peu dans la tech que la technologie d'ailleurs rend de plus en plus possible en ce moment. En témoigne l'intérêt croissant qu'il y a par exemple dans les blockchains, ces livres de comptes consultables par n'importe n'importe qui et qui supporte aujourd'hui ce qu'on appelle des crypto-monnaies ou des NFT.
Et j'en viens à la question que se posent probablement certains de nos auditeurs qui utilisent Twitter, Maxime. Est-ce que Mastodon vaut vraiment mieux en termes de modération de contenu ?
Oui et non, en fait, la modération, elle change selon le serveur où l'on se trouve. Donc, des gens peuvent se retrouver sur liste noire, sur le bon vouloir d'un administrateur. Mmh. Et ça, pour le coup, c'est presque encore plus opaque, finalement, que Twitter. Je tiens quand même à préciser que la plateforme demeure un peu plus saine actuellement parce qu'en fait, elle dispose de moins d'utilisateurs. Mais à ma connaissance, il y a très peu de moyens mis sur la détection de faux comptes, par exemple, ou contre les campagnes de désinformation. Et tout ça peut devenir un problème si le nombre d'utilisateurs augmente, parce que logiquement, en fait, on sera plus susceptible de retrouver sur Mastodon des éléments perturbateurs, comme on en trouve aujourd'hui sur Twitter.
Donc, ce réseau qu'on présente comme une alternative à Twitter ne permet pas forcément d'en éviter tous les biais.
Alors, certains, c'est incontestable, mais oui, tout n'est pas parfait. La preuve, on n'assiste pas non plus à un désengagement massif de Twitter. Mastodon semble gagner des abonnés, mais Twitter ne semble pas non plus trop en perdre. Puis, il y a d'autres réseaux sociaux qui veulent attirer les déçus de Twitter. On peut penser à Discord, qui est déjà très populaire chez les jeunes, qui cumule des fonctionnalités de messagerie instantanée, de forum audio, voilà, et qui fonctionne aussi sous la forme de serveur. Ou à Blue Sky, la prochaine plateforme de Jack Dorsey, donc l'ancien fondateur de Twitter, pour laquelle on ne sait pas encore grand-chose, mais qui veut aussi être décentralisée. On peut aussi se demander si le successeur de Twitter ne sera pas inspiré lui-même de Mastodon. Après tout, son code est open source, est imitable par n'importe qui. Donald Trump s'en était servi pour créer son propre réseau social.
Discord, Blue Sky, je note tout ça, ça nous fera une liste de prochains termes à définir. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est Mastodon. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.